Bien, chers amis, c'est vraiment une joie pour nous d'être parmi vous ce matin. Comme Michel l'a déjà dit, je suis venu avec la famille, aussi avec une amie, Bernadette, et que le Seigneur a béni parce qu'elle cherchait l'adresse. Elle est tombée sur une autre sœur et qui l'a conduit jusqu'à nous. Donc, c'est une bénédiction que nous recevons du Seigneur, puisque c'est lui qui nous montre le chemin. Alors, c'est vrai que ça fait un an à peu près, ou peut-être plus, que j'étais venu parmi vous pour partager quelques bénédictions spirituelles ensemble. Et c'est toujours une joie de vous revoir, une communauté bien vivante. Et merci pour tous les chants que vous avez présentés, que vous avez animés et qui nous ont fortement encouragés. Alors, ce matin, comme le titre l'indique, du doute à l'espoir. Et c'est un message que je veux donner à partir du livre de Ruth. Alors, je vous lis le texte. Au jour où les juges gouvernaient, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner en immigré au pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Noémie, et le nom de ses deux fils, Malon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent au pays de Moab et ils y vécurent. Puis Élimélec, le mari de Noémie, mourut, et elle resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. Le nom de la première était Orpa, et le nom de la seconde, Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malon et Kilion moururent aussi, tous les deux, et la femme resta seule, privée de ses deux enfants et de son mari. Alors, elle revint du pays de Moab avec ses belles-filles. En effet, elle avait appris au pays de Moab que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle quitta le lieu où elle vivait, ses deux belles-filles avec elle. Elles se mirent en route pour retourner en Juda. Noémie dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacune de vous retourne chez sa mère. Que le Seigneur agisse avec fidélité envers vous, comme vous avez agi envers ceux qui sont morts et envers moi. Que le Seigneur vous donne à chacune de trouver un lieu de repos chez un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent alors à sangloter. Elles lui dirent, « Non, nous retournerons avec toi vers ton peuple. » Noémie dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon ventre des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, il y a de l'espoir pour moi, et si ce soir même j'étais remariée et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils grandissent? Refuseriez-vous pour cela de vous remarier? Non, mes filles, mon sort est plus amer que le vôtre. La main du Seigneur s'est abattue sur moi. » Elles sanglotèrent encore, puis Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors, « Ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne, toi aussi, comme ta belle-sœur. » Ruth dit, « Ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et c'est là que je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ceci et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, n'insista plus. Elles marchèrent toutes les deux jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, l'émotion gagna toute la ville. Les femmes disaient, « Est-ce là Noémie ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, amère, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. J'étais parti comblé. Le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? Le Seigneur a témoigné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. » Ainsi, Noémie revint, et avec elle sa belle-mère, sa belle-fille, Ruth, la Moabite, qui venait du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Amen. Comme vous l'avez peut-être observé, mes chers amis, le livre de Ruth apparaît, me semble-t-il, comme une méditation sur le deuil. D'abord, le deuil d'une situation d'abondance, comme l'affirme le verset 21, mais aussi deuil de leur santé, deuil de leurs proches, deuil de leur projet de vie, deuil des liens d'affection. Toutefois, ce livre nous propose des pistes pour avancer lorsque nous traversons des situations difficiles au fil de notre existence. Et l'auteur de ce récit nous présente d'emblée une famille classique, le père, la mère, les deux fils. Et cette famille juive et croyante vit à Bethléem de Juda. La vie semble pour le moins couler relativement douce pour Élimélec et sa famille. Une vie parfaite, me diriez-vous ? Oui, parfois, on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce qu'on soit rattrapé par des réalités bouleversantes qui nous rappellent la complexité, la fragilité de l'existence humaine. Autour de ces quatre noms propres qui évoquent une vie bien placée, le texte nous présente des circonstances difficiles. Ce livre ne veut pas nous bercer d'illusions comme si une vie et une foi parfaite pourraient nous garantir une vie sans problème. J'ai regardé il y a quelques mois un film intitulé « Sitting in Limbo », c'est-à-dire « Assis dans les limbes », un état, vous savez que les limbes représentent un état intermédiaire entre le paradis et l'enfer, un état flou. Et ce film était tiré d'une histoire réelle, vraie. Un père de famille d'origine jamaïcaine vit en Angleterre depuis plus de 50 ans. Il a deux enfants, il travaille, gagne honnêtement sa vie, loue une maison, paie ses impôts. La vie semble parfaite pour lui jusqu'au jour où il est arrêté et menacé d'expulsion parce qu'il n'avait pas son passeport sur lui. Il doit produire sans cesse des pièces pour justifier qu'il n'est pas dans une situation irrégulière. Plus il produit des éléments, plus on lui en demande. À un certain moment, on va jusqu'à lui demander de délivrer un test de paternité. Cet homme voit sa vie complètement basculer lorsqu'il est placé dans un centre de rétention. Fort heureusement, une solidarité s'organise autour de lui. Sa famille peut payer un avocat et pour tenter de défendre ses droits. Au total, après un combat acharné, persévérant, il est innocenté et réhabilité dans sa dignité d'homme. Un passeport lui est délivré et le gouvernement de Theresa May à l'époque doit présenter ses excuses et s'engager à corriger des dérapages administratifs liés à ces situations-là. On peut imaginer combien cette expérience bouleversante, angoissante, a profondément traumatisé cet homme. La vie, vous le savez, ne nous met pas forcément à l'abri de catastrophes naturelles, comme on a pu le découvrir en Turquie et aussi en Syrie ces jours-ci. La vie ne nous met pas non plus à l'abri de catastrophes professionnelles, on peut perdre son travail et se retrouver dans la précarité à un moment ou à un autre, de catastrophes psychologiques, un burn-out ou encore une situation très difficile, voire matrimoniale. Jusque-là, tout allait bien dans la famille d'Élimélec, mais la famine va changer la donne. Le surgissement de la famine bouleverse la vue de cette famille. Et pourquoi le Seigneur permet-elle cette famille, permet-elle cette situation de crise ? C'est la question que beaucoup de Judéens pouvaient se poser. Mais vous savez que la famine est souvent liée à des mauvaises décisions des dirigeants politiques d'un pays. Vous le savez, certains dirigeants, surtout africains, utilisent la famine comme une arme de guerre. On a accusé récemment Poutine, à juste titre, de créer une situation d'insécurité alimentaire en bloquant le port d'Odessa en Ukraine. Peut-être que les enfants d'Israël ont abandonné le Seigneur. Et souvent, dans la Bible, la famine est le résultat de l'infidélité du peuple envers l'Éternel, son Dieu. Soit Élimélec quitte Juda, Bethléem de Juda, accompagné de sa femme et de leurs deux enfants. Et le texte nous précise qu'ils vont se diriger à Moab pour y séjourner. Ils n'ont pas l'intention, comme je le disais à Michel, de s'installer dans la durée dans ce pays, mais d'y séjourner. Et peut-être, dans quelques temps, lorsque la situation le permettrait, de regagner leur pays natal. Chaque étranger qui s'installe dans un pays a envie de retourner au bout d'un certain temps dans son pays natal. Parfois, les circonstances ne le lui permettent pas immédiatement. Il arrive également que l'étranger se sente bien dans le pays d'accueil et décide de s'y établir durablement parce qu'il a trouvé le bonheur, ses enfants sont épanouis. Aussi, le pays d'accueil devient alors son pays d'adoption. Dans le cas d'Élimélec, je le rappelle, on vient pour fuir la famine et conserver la vie, le temps de gérer le pic de la crise alimentaire. Rappelez-vous aussi que devant une situation de famine ou de danger, Abraham, mais aussi Jacob, ou encore Marie-Joseph et Jésus, se réfugièrent en Égypte pour un certain temps, devant des situations compliquées. L'installation de cette famille s'est prolongée dans le pays de Moab, à tel point que les fils de Noémie, épousèrent chacun une Moabite. Et quelques années plus tard, soit 10 ans se sont écoulés, la mort rattrape les immigrés. C'est paradoxal. La famine a fait fuir la famille. La famille fuyait Bethléem pour échapper à la mort. Et la mort rattrape la famille à Moab. Naomi va perdre successivement son mari et ses deux fils, Malon et Kilion. Vous voyez, parfois, lorsque des réfugiés quittent des pays en situation de crise alimentaire ou de guerre, et malheureusement arrivés dans la Méditerranée, la mort les rattrape. Et c'est un sujet bouleversant qui nous affecte aussi. Nous voici en présence de trois femmes frappées par le deuil, frappées par la douleur, par la souffrance et peut-être par la solitude. Comment vont-elles surmonter cette épreuve redoutable? Le récit nous propose ainsi trois pistes pour remonter, trois pistes pour nous donner le choix et on peut éventuellement les combiner ou en trouver d'autres. Mais trois pistes nous sont données ici que nous aimerions analyser. Voilà Noémie qui se retrouve seule. C'est une situation absolument dramatique, surtout lorsqu'on connaît la situation socio-économique de la veuve et de l'orphelin dans le Moyen et Proche-Orient antique. La législation mosaïque stipule de protéger la veuve et l'orphelin. Souvenez-vous qu'Élie, le grand prophète de l'Éternel, est envoyé à Sarepta chez une veuve. Et c'est assez étrange puisque lorsque ce prophète arrive à Sarepta, elle découvre cette veuve et elle lui demande de lui confectionner un gâteau. Et la veuve répond, mais je n'ai rien. J'ai un peu d'huile, un peu de farine et avec ces deux éléments-là, je vais confectionner un gâteau, je vais manger, je donnerai une partie à mon fils et nous mourrons après. Et finalement, vous savez que le miracle se produit puisque le pot de farine, l'huile se renouvelle et cette dame se retrouve dans une situation non de précarité, mais le Seigneur a envoyé ce serviteur pour pouvoir secourir cette veuve qui était justement préoccupée par une situation préoccupante. Par la foi, Noémie reçoit un élan de résurrection qui se communiquera aux deux autres femmes, Orpa et Ruth. Pourtant, la foi de Noémie est vacillante. Elle n'est pas dans la louange, mais elle accuse Dieu, peut-être injustement, évidemment, du mal qu'il a frappé. Et d'ailleurs, c'est ce refrain que nous lisons. « Dieu m'a fait du mal, la main de Dieu s'est abattue contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal, j'étais parti comblé, je retourne vide. » Ne m'appelez plus Noémie, vous voyez, la désignation de ce nom signifiait gracieuse, mais appelez-moi Mara, autrement dit amère. Je suis devenu amère parce que les circonstances de la vie m'ont rendu amère. Voilà dans l'état où elle se trouve. Mais il faut l'apprécier. Elle reçoit de sa foi d'abord la force de se lever. Elle se lève. Elle ne va pas s'accabler, rester dans une forme d'accablement ou de découragement, mais elle trouve la force et la foi de se lever et de se mettre en marche, de se mettre en route. Oui, la foi nous donne le courage de nous lever et de marcher. Et que disait Jésus aux personnes qu'il rencontrait, aux malades ? Lève-toi et marche. Mets-toi en chemin. Et le courage d'aller plus loin. Et le courage de faire face à des situations compliquées. Ne désespère pas parce que je t'ordonne de te lever et de marcher. Et puisque c'est moi qui te l'ordonne, tu marcheras. Tu te lèveras et tu marcheras. La foi nous donne la force d'espérer contre toute espérance. Elle renverse devant nous, comme dit le cantique, les plus fortes murailles. Noémie réclame la bénédiction sur les personnes qu'elle aime. De plus, elle puise la joie de leur dire sa reconnaissance et de les libérer, de les autoriser à exister et à choisir leur propre vie. Allez mes filles, rentrez chez vous, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur use de bienveillance envers vous comme vous en avez usé envers moi. Voyez, une parole de bénédiction qu'elle prononce sur ces deux belles filles. Complètement abattue et désespérée, Noémie a encore la lucidité de choisir son chemin. Elle décide donc de retourner à Bethléem, la maison, la terre natale. Elle sait bien qu'on ne peut jamais faire revenir le passé. Partie comblée, elle revient vide et vidée. Elle a appris dans la campagne de Moab que Dieu était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Verset 6. Oui, mes chers amis, comme l'affirme Martin Luther King, la nuit ne dure jamais. Elle est chassée par l'aurore de l'espérance. Sa foi lui sert de bouclier. Elle a encore le courage face à la honte de repartir vers son pays. Elle a l'espérance que le Dieu d'Israël est vivant, que le Dieu d'Israël est un Dieu grand, vivant et qui accomplit des merveilles. La foi de Noémie vient d'être soulignée, mais qu'est-ce que la foi sans amour ? L'amour, elle le reçoit de sa belle-fille, Ruth. Et quel amour ! Un amour plus fort que la mort ! Nous reviendrons dans quelques instants sur Ruth et de sa déclaration d'amour envers sa belle-mère, mais il faut dire un mot sur Orpa. Et parfois, on a accusé forcément Orpa. Oui, elle est retournée, elle n'a pas pu suivre Ruth. Non ! Il faut dire que Noémie lui a donné le choix de regagner son territoire, de rester auprès de sa famille, auprès de ceux qu'elle aime, et peut-être de se reconstruire au milieu de son peuple. Elle lui donne ce choix. Orpa est entraînée par cet élan de résurrection que lui donne Noémie. Et c'est là une force sur laquelle nous pouvons compter, la force de la parole qui dit la bénédiction de Dieu sur nos proches, et la force de l'amitié qui nous permet de recevoir une force d'autres plus fort que nous. Noémie prononce une bénédiction sur Orpa. Et cette bénédiction, elle est précieuse, elle sera précieuse sur Orpah. Et Orpah se lève, elle sort et elle se met en route. C'est déjà bien. Ensuite, elle réfléchit. Elle hésite entre deux attachements. C'est ce qui fait souvent la complexité de nos choix. Et nous avons souvent besoin que Dieu éclaire nos choix. Elle choisit de laisser partir les autres et d'être fidèle, mais à sa façon à elle. Parfois, notre choix n'est pas de tout changer, mais de nous concentrer sur ce qui nous reste. Elle a perdu son mari et ceux qu'elle aime s'en vont. Il lui reste encore sa mère, son pays, ses amis et aussi la connaissance nouvelle de l'Éternel qui bénit. Et avec elle, l'espérance d'un nouvel avenir possible, une paix et une consolation inconnues encore. Elle pourrait être en bénédiction pour son peuple, pour ses amis, parce qu'elle a appris la foi qui sauve de sa belle-mère. Rappelez-vous de l'homme de Gérasie, voilà. Il voulait suivre Jésus lorsque le Seigneur l'a libéré de ces démons qui l'accaparaient, qui brisaient son existence. Et à un moment, cet homme, libéré, demande à Jésus la possibilité de venir avec lui. Et Jésus dit non, reste chez toi, tu seras plus utile chez toi. Et effectivement, il devient premier évangéliste, non seulement chez lui, mais dans toute la Décapole, annonçant les merveilles, la miséricorde, la profondeur de l'amour et la hauteur de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc voilà le destin qui peut être réservé à Orpah. Revenons sur Ruth, que nous avons laissée avec Noémie. Elle fait une déclaration d'amour complètement inouïe à sa belle-mère. À mon sens, une des plus belles de la Bible. « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela, si ce n'est la mort qui me sépare de toi. » Que nous dit cette fidélité, cet amour de Ruth? Comment s'en inspirer? Devant une telle déclaration, devant une telle résolution, devant une telle conviction, Noémie ne trouve aucune contre-parole. Elle se tait. Et ça, c'est très fort, mes chers amis. Devant une déclaration d'amour, qu'est-ce que vous pouvez dire à un débordement d'amour? Vous ne pouvez rien dire. Lorsque le Seigneur nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, devant l'amour de Dieu, nous ne pouvons rien dire. Devant la grâce que Dieu nous fait, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes trop pauvres pour acheter sa grâce et Dieu est trop riche pour pouvoir la vendre cette grâce-là. Nous nous taisons et nous acceptons d'être aimés à un point extraordinaire. L'amour de Dieu nous étreint et nous ne pouvons rien faire devant une telle déclaration d'amour. Elle se tait. Ruth s'attache non seulement à Noémie, mais aussi à ce qui fait l'inspiration de Noémie, son pays et son Dieu. Ruth l'étrangère choisit volontairement de s'attacher à sa belle-mère, Noémie, qui pourtant ne lui présentait aucune perspective d'avenir, aucune garantie. Elle s'attache à une femme finie. Elle s'attache à une femme déprimée, qui n'a plus rien à offrir, sinon l'amour, n'a rien. Vous voyez, c'est le contraire qui se produit chez nous, vous et moi. Il nous est plus facile de nous attacher à quelqu'un qui nous apporte quelque chose, qui nous garantit quelque chose, qui nous promet quelque chose. Je serai peut-être ami avec quelqu'un qui est bien placé dans ce monde, qui peut m'ouvrir quelques portes, qui peut m'aider. Mais voilà une femme qui s'attache à sa belle-mère, qui n'a rien à lui donner, qui a les mains vides. Et c'est ça la force de l'amour, c'est ça la foi. Lorsque nous nous attachons à Dieu, c'est pas parce que nous voulons retirer quelque chose de lui, c'est parce que nous l'aimons et parce qu'il nous a aimé le premier. et que nous ne servons pas Dieu par intérêt, je te sers parce que j'ai la certitude que tu vas me bénir. Voilà, c'est pour cette raison. Non, nous ne sommes pas à l'époque des Romains qui se plaçaient sous le patronage d'un Dieu. Et lorsque ce Dieu-là ne les bénissait pas, ne leur était pas favorable, ils changeaient de Dieu. Non, nous sommes attachés à ce Dieu qui nous aime et que nous aimons. Et si nous le servons, ce n'est pas par intérêt, mais c'est parce que nous l'aimons. Et pourquoi nous l'aimons? Parce qu'il nous a aimés le premier. Elle, la Moabite, s'attache à celle qui se déclare frappée par Dieu. Et elle est même prête à s'attacher à ce Dieu dont Noémie dit qu'il l'a abandonné, qu'il lui a fait du mal. Elle veut s'attacher à ce Dieu dont Noémie dit « Il m'a fait du mal, le Tout-Puissant m'a frappé, je suis amère. » Et elle s'attache à ce Dieu-là principalement. Si je vous dis « Mais tiens, ce Dieu m'a fait du mal », vous ne vouliez pas croire en ce Dieu, vous ne vouliez pas marcher avec ce Dieu. Mais c'est tout le contraire qui s'opère pour Ruth. Elle s'attache à ce Dieu dont Noémie dit que le Tout-Puissant m'a frappé, le Tout-Puissant m'a fait du mal. La vision de Dieu chez Ruth est édifiante, éblouissante. Elle a une connaissance approfondie du Dieu de Noémie. Arrivera donc à Bethléem une femme déprimée, désespérée, sans avenir, du moins ce qu'elle croit, accompagnée de plus par une étrangère, parmi les plus méprisées. Mais elle arrive, précise le narrateur, au moment de la moisson des orges. Elle arrive au moment où Dieu ouvre sa main pour nourrir son peuple. Elle arrive au moment où les cieux se sont ouverts, où Dieu fait pleuvoir sa bénédiction sur le peuple. Comme quoi Dieu n'abandonne jamais son peuple, mais il pourvoit toujours aux besoins de son peuple. Ruth n'a pas choisi la facilité, elle a choisi Noémie, une personne. Le courage, faut-il le préciser, ne vit que dans les relations de personne à personne. Ruth a le courage de se détacher de son histoire, de sa famille, de sa culture, de sa religion pour l'autre. Elle a le courage de refuser une sécurité confortable pour vivre sa fidélité envers Noémie. C'est le courage sans lequel il n'y a pas d'amour. Et on pourrait se poser cette question, où sont les Ruth de notre temps? Sommes-nous attachés à Dieu au point de le suivre par la foi sur le chemin qu'il nous entraîne? Si tu crois, tu verras de grandes choses. Jean chapitre 11, verset 40, c'est la réponse que Jésus donne à Marthe, la sœur de Lazare. Si tu crois, tu verras de grandes choses. Sommes-nous prêts à renoncer à nous-mêmes, à notre confort pour nous lancer dans l'aventure de la foi? Et vous remarquerez, pour conclure, mes chers amis, que le livre de Ruth commence sur Noémie et s'achève aussi sur Noémie qui retrouve sa dignité de femme par la naissance d'Obed, avec cette phrase caractéristique, « Un fils est né à Noémie ». Je vous lis le texte parce qu'il est vraiment très, très fort et précieux. Je lis ceci au chapitre 4, verset 3, deuxième partie. « Le Seigneur donna à Ruth de concevoir et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Noémie, « Béni soit le Seigneur qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans rédempteur. Que son nom soit proclamé en Israël. Il te fait revenir à la vie. Il pourvoira à tous tes besoins dans ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde. Elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein. C'est elle qui fut sa nourrice. Les voisins lui donnèrent le nom, un nom en disant « Un fils est né à Noémie ». Elles l'appelèrent du nom d'Obed. C'est le père de Jessé père de David, autrement dit, l'ascendant du Messie. C'est une histoire vraiment bouleversante, poignante d'émotions. On ne dira plus un fils aîné à Ruth, mais un fils aîné à Noémie. Celle qui n'avait plus rien du tout a maintenant un fils, une descendance. Et quelle descendance ? Celle qui la rattache à la descendance du Messie, à la lignée du Messie. Cette histoire nous enseigne, mes bien-aimés, que Dieu ouvre des chemins insoupçonnés. Il est capable de nous donner un bonheur qu'on croyait inespéré. Seul Dieu est capable de faire cela, mes chers amis. Ce récit nous apprend que la grâce de Dieu est à la mesure de toute épreuve. Oui, notre Dieu est capable, pour citer encore Martin Luther King, de tailler une pierre d'espérance dans une montagne de désespoir pour ses enfants. Tailler une pierre d'espérance dans une montagne de désespoir. Oui, ce Dieu peut renverser les circonstances les plus alarmantes, tout comme Joseph. Il peut tirer le bien du mal. Et disons ceci, non, les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande et ta fidélité. Oui, mes chers amis, ne désespérons jamais de notre Dieu. Ce Dieu qui est intervenu dans la vie de Ruth, de Noémie, d'Orpa, est le même. Il n'a pas changé. Il est le même capable d'agir pour nous, de faire toute chose concourir à notre bien. Et terminons sur cette belle déclaration de Michée, le prophète Michée, au chapitre 7 de son livre, versets 18 et suivants, et qui dit ceci, « Qui est comme toi ? Qui est comme Dieu qui pardonne, qui restaure, qui libère et qui nous aime d'un amour insoupçonné, d'un amour fort, aussi fort que nous ne puissions même pas l'imaginer ? Nous voulons lui rendre grâce et lui faire confiance. Du désespoir à l'espoir. Dieu change le temps et les circonstances. Mais il nous demande d'entrer dans le champ de sa bonté, dans le champ de sa révélation. Il nous demande de nous lever, de marcher et de croire. Alors je ne sais pas pour vous dans quelle situation vous êtes aujourd'hui, mais sachez que ce Dieu est le même. Et il peut vous combler, il peut vous bénir richement, il peut faire toutes choses, concourir à votre bien. Ne cessez jamais de lui faire confiance, car il est notre Dieu, il est notre Sauveur. Amen. Nous voulons prier pendant quelques instants. Oui, Seigneur, c'est un récit qui nous touche, mais qui nous rassure également sur ta capacité à tirer le bien du mal, ta capacité à transformer des situations qui nous échappent, ta capacité à tracer un chemin là où tout semble flou, obscur. Nous te bénissons puisque nous croyons, nous confessons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour tout ce que tu opères dans la vie de chacun d'entre nous et je prie pour que tu répandes ta bénédiction en abondance sur cette assemblée, que tu bénisses tous les membres, les sympathisants, tous ceux qui exercent une fonction de responsabilité ici. Bénis, enrichis leur travail, enrichis leur engagement et que ton Église rayonne dans cette localité où tu l'as placée pour rendre témoignage de ton amour, de ta grâce et de ton pardon. Sois béni, notre Dieu, et reste avec nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens toucher nos cœurs et viens nous rendre sensibles à la dimension de ton amour et de ta bonté
envers chacun d'entre nous. Reçois notre adoration, reçois nos hommages en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.